franceinter.fr.
Il y avait un hashtag où tu pouvais tout trouver.
Attends, hashtag Charlie Hebdo.
C'est hashtag qui directement.
C'est bien, c'est bien.
Ah voilà.
Charlie. Ah, mais du coup, les balais. Ça, c'était il y a 2 minutes, wesh. Eh. Il parle toujours de ça.
Eh, c'est quoi ça? C'est quoi le truc du sang là?
C'est n'importe quoi.
MDR.
Bonjour à tous. Vous avez certainement découvert hier à 20h un nouveau rendez-vous sur la version estivale de notre antenne, Interclasse. Ce projet est né après les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. France Inter délègue alors bon nombre de ses journalistes et producteurs dans 5 classes de collégiens de 4e et 3e. L'idée est de leur expliquer les mécanismes de l'information, une forme d'éducation aux médias dans une époque où jamais il n'y a eu autant d'informations traitées aussi vite et avec une caisse de résonance aussi vaste, Internet. Aujourd'hui, c'est une évidence de dire que les collégiens s'informent avant tout sur Internet et en particulier sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, YouTube sont devenus des médias à part entière, sauf que l'on peut aussi y trouver tout et n'importe quoi. Et c'est sur la toile qu'ont explosé ce qui fut longtemps cantonné à des cercles restreints et radicaux, les théories du complot. La CIA serait derrière les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Ont-ils d'ailleurs vraiment eu lieu? Se demandent même certains conspirationnistes. Les Illuminati auraient commandité ceux de Paris cet hiver. Ou encore, les services secrets israéliens auraient éliminé une partie de la rédaction de Charlie Hebdo. Toutes ces thèses, délirantes et scandaleuses, trouvent écho sur ces réseaux sociaux et elles séduisent aujourd'hui la plus jeune des générations, rebutée par les médias traditionnels. Cette semaine, nous vous proposons une nouvelle diffusion d'un reportage d'Emmanuel Davier, « Les ados à l'heure du complot ».
Interception, le magazine de la rédaction. Inter.
Retour à présent sur les incidents qui ont émaillé la minute de silence organisée jeudi dernier dans les établissements scolaires. C'était au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo. Dans certains établissements, les enseignants ont eu bien du mal à faire respecter ce moment de recueillement. Parfois, il a été tout simplement impossible de parler des attentats de la semaine dernière avec les élèves. Il faut dire que sur Internet, c'est parfois une toute autre histoire qui est racontée. La théorie du complot refait surface et les plus jeunes y sont particulièrement sensibles. Vous l'avez constaté, Sandy Dauf.
Oui, comme cette jeune fille rencontrée devant un lycée porte de Vanves à Paris.
Nous, on n'a aucune preuve que c'est eux qui l'ont fait, que le policier il est vraiment mort. Pour les terroristes, on n'a pas de preuve aussi que c'est eux vraiment qui ont fait l'attentat. Exemple, je vais vous donner un exemple. Ils ont montré comme quoi ils ont téléphoné à BFM TV.
BFM TV,
ouais. Et ils ont montré ça, mais ils ont montré ça après la mort. Ils pouvaient nous montrer ça le jour.
Bien, eh ben, on va travailler. Alors, comme on vous l'a dit, 2 objectifs ce matin. Le premier, c'est donc de réfléchir aux interlocuteurs qui peuvent être éventuellement les vôtres dans le cadre du travail de réalisation de Zoom que vous allez faire. Deuxième objectif, une fois que vous avez identifié un ou des interlocuteurs, réfléchir à des questions que vous pourriez lui poser.
Collège Pierre de Jeter à Saint-Denis.
Et là, tous les gens qui sont là vont vous aider à préciser ces questions, à réfléchir sur l'intérêt des questions, pourquoi poser cette question et pas une autre. On a une idée derrière la tête, on construit un raisonnement.
Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie, commence cette séance interclasse.
Qu'un Zoom, c'est construit.
Pendant 2 heures, 2 fois par mois, collégiens, enseignants et journalistes travaillent ensemble pour réaliser des reportages qui seront diffusés l'été prochain sur France Inter.
Une vieille dame, un psychologue, je ne sais pas ce que vous voulez. Eh bien, vous commencez déjà à réfléchir sur les questions que vous pourriez poser. Allez-y.
Bonjour Mohamed. Tu es venu à Radio France le 23 septembre pour le lancement d'Interclasse. Est-ce que tu te souviens de la conversation que nous avons eue tous les deux dans un des couloirs de France Inter?
Oui. On parlait des journalistes, de ce qu'ils faisaient. Et moi, j'avais dit que peut-être il y avait des journalistes qui complotaient et qui disaient des choses fausses et qui nous cachaient des choses.
C'est-à-dire que lorsque je t'ai demandé ce que tu pensais des journalistes, tu m'as répondu « ce sont des comploteurs ».
Oui.
Et je t'ai demandé « mais pourquoi auraient-ils la volonté de comploter ?»
Bah, pour nous cacher des choses, pour faire de l'audience, pour... Par exemple, sur le journal, ils vont inventer des choses, ils vont marquer des choses inventives qu'on n'a jamais vues sur les informations, qu'on n'a jamais entendu parler. Et voilà.
Et comment tu peux distinguer une information fausse d'une information réelle ?
Par exemple, par information, par la radio, par BFM, par exemple, une chaîne qui ne nous dit pas tout. J'ai entendu dire que sur Internet, qu'il y avait plein de choses qui nous cachaient. Par exemple, sur l'attentat là, du Stade de France, bah, ils nous avaient caché plein de choses et qu'ils ont des fois, je ne sais pas, mais j'ai entendu sur Internet qu'ils ont inventé, par exemple, pour le bout de doigt.
C'est-à-dire, c'est quoi le bout de doigt ?
Bah, le bout de doigt qu'ils ont retrouvé au milieu de tous les cadavres et tout. Ils ont dit que sur Internet, c'était impossible parce qu'il y avait presque des centaines ou des milliers de cadavres. Donc c'est impossible qu'ils auraient trouvé un bout de doigt par hasard dans les cadavres.
Ce type d'information sur Internet, tu le trouves où ?
Bah partout, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur les forums, les blogs, voilà.
Et tu penses que c'est vrai ?
J'hésite, j'y réfléchis des fois. Je réfléchis, j'essaye de me dire non, mais en fait des fois je continue à y réfléchir et je me dis peut-être c'est vrai. C'est bien, parce que j'ai ma propre opinion, je pense que je réfléchis.
Et est-ce que tu sais ce que signifie le complot ?
Oui.
Ça signifie quoi, le complot ?
Bah, ça signifie que c'est un coup qui a été monté par exemple, soit par un État, soit par quelqu'un. En fait, un complot, c'est du genre quand une personne cache quelque chose, mais ne veut pas le révéler, et il le cache par autre chose.
Yannis Roder, professeur d'histoire et géographie dans un collège de Saint-Denis.
La théorie du complot, on en entend beaucoup parler auprès des élèves depuis les attentats du mois de janvier. Comment elle s'exprime en classe ?
Alors elle s'exprime d'abord ponctuellement, elle ne vient pas systématiquement, mais elle vient notamment liée à l'actualité. Elle s'est exprimée très rapidement à l'issue des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, où les théories qui circulaient sur Internet sont très rapidement arrivées dans la bouche des élèves en classe, notamment en ce qui concernait, je me souviens, la couleur du rétroviseur, par exemple. Des doutes sont émis par les élèves. Là, en l'occurrence, c'était le papier d'identité oublié par un des frères Kouachi. Voilà. Même chose après les attentats du 13 novembre, où le lendemain, certains s'interrogeaient sur la présence d'un passeport syrien aux abords du Stade de France, là où se sont fait exploser trois personnes. Voilà, ce sont des questions que se posent les élèves et qui, parfois, entrent en résonance avec certaines théories qui circulent sur Internet. Voilà. Après, ça peut aussi arriver en classe, où certains événements historiques sont remis en cause, contestés, dont la véracité est contesté par certains élèves. Je pense par exemple au 11 septembre 2001, où l'an dernier, j'ai eu un élève qui avait, lui, pour le coup, une vision complotiste assez globale, puisqu'il nous disait clairement, voilà, c'est un complot pour faire la guerre aux musulmans. Voilà. Le 11 septembre servant de prétexte à déclencher une guerre globale, générale, contre l'islam. Alors, on peut aussi avoir en tête que ce sont des adolescents et que remettre en cause la parole de l'enseignant qui représente l'autorité, c'est aussi un jeu. Mais il n'y a pas que ça. S'arrêter à cela, ce serait ne pas comprendre ce qui se passe. C'est aussi une façon d'affirmer autre chose que ce que dit l'enseignant, d'entrer dans une idée du « eux et nous ». Eux, ceux qui dirigent, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'autorité, et nous, à qui on cache des choses, à qui on ne dit pas la vérité. Et certains élèves, pas tous, loin de là, heureusement, mais certains entrent très facilement dans cette opposition du « eux et nous », et ça peut passer par le conspirationnisme, qui dans ces cas-là est assez décomplexé. Ils ne sont pas nécessairement idéologisés. C'est-à-dire qu'ils répètent des choses qu'ils entendent et qui font sens pour eux, parce que ce sont des éléments explicatifs qui donnent un sens à ce qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Et ça, c'est par exemple le cas d'un élève cette année qui m'a tenu des propos, en janvier, complotistes, mais parce qu'il n'arrivait pas à comprendre ce qu'on lui exposait. En revanche, il peut arriver que certains élèves, bons élèves, se fassent là le relais de propos conspirationnistes, mais en y adhérant d'un point de vue idéologique. C'est beaucoup plus rare, on est au collège quand même, mais c'est beaucoup plus inquiétant, parce qu'on a là derrière un discours idéologique qui est en train de se former, qui est en train de se construire, et qui dépasse largement l'aspect conspirationniste.
Comment vous parvenez à déconstruire ces thèses complotistes lorsque des propos sont tenus comme ça en classe ?
C'est très difficile, parce que prendre le contre-pied du propos conspirationniste fait que vous entrez de plein pied dans le complot. Vous faites partie du complot. Mais il faut absolument le faire, parce que celui qui tient le propos le fait devant 25 autres élèves. Et si je prends l'exemple de cet élève qui contestait la véracité, non pas du 11 septembre, mais de la manière dont il est présenté et dont il s'est déroulé, eh bien, je lui ai demandé quelles étaient ses sources. Sa source, c'était Internet. Et il m'a demandé, mais quelles sont les vôtres ? Alors, effectivement, moi, j'ai répondu des livres d'histoire, des médias différents, de différents pays, au même moment, que j'ai croisés pour préparer mes cours. Et je lui ai demandé quel livre il avait lu sur le sujet. Aucun. Quel journal il avait parcouru sur le sujet ? Aucun. Sa seule source d'information, c'était des clips sur Internet. Et je lui ai demandé alors qui a été... Parce qu'il m'a dit que j'étais manipulé. Parce que je lui ai demandé, est-ce que moi aussi je fais partie du complot alors ? Il me dit non, vous êtes manipulé. Il m'aimait bien, donc voilà, je n'étais que manipulé. Alors je lui ai demandé si lui, ne s'appuyant que sur un extrait ou deux d'un clip sur Internet, moi, m'informant par différents biais, lequel des deux était manipulé ? Et puis, ce qui s'est passé, ce qui était très intéressant, c'est que d'autres élèves, une fois que le cours s'est terminé, en fait, le cours a duré une heure et demie ce jour-là, au lieu de 55 minutes, et les élèves, tous les élèves sont restés. Et les autres élèves l'ont pris à partie derrière, en disant, mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Tu te rends compte, nous, on a étudié ça, on a vu ça, et puis tu dis que le prof, il est manipulé, mais ils ont repris mes arguments. C'était assez intéressant. Et puis ils en ont parlé chez eux aussi. Donc, si on n'y croit pas, si on ne croit pas à ce qu'on fait quand on est enseignant, on arrête.
Flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center.
Nous sommes dans le 13e arrondissement à Paris. Nous allons à l'université Paris Diderot rencontrer Gérald de Bronner. Il est professeur de sociologie et spécialiste de la théorie du complot.
Une théorie du complot, c'est tout simplement une théorie qui conteste une version officielle des faits, qu'elle soit historique ou portée par exemple par des politiques. On parle de théorie du complot quand on ne sait pas si les faits sont avérés ou pas, ou plutôt si l'interprétation des faits est avérée ou pas, parce que des complots, ça existe dans l'histoire. Et on parle de mythologie du complot quand il est évident que cette interprétation des faits relève de la fable.
Et pourquoi est-ce que cela fonctionne si bien ?
Ça fonctionne bien parce que elle offre une nouvelle lecture simplifiée, généralement, de faits qui sont en général complexes. Les faits historiques sont plutôt multifactoriels, ils viennent de plusieurs facteurs, et les théories du complot proposent d'expliquer ces faits historiques comme dépendant d'un seul facteur. Et puis, elles proposent aussi une lecture très manichéenne du monde, c'est-à-dire il y a des bons et il y a des méchants, et ça, malheureusement, c'est très satisfaisant pour la plupart de nos cerveaux. Elles donnent enfin l'impression à celui qui endosse ces théories qu'il est un peu plus intelligent que les autres. C'est basé sur ce qu'on appelle un effet dévoilement. C'est-à-dire, une théorie du complot vous propose de mettre des éléments disparates de l'histoire et de vous expliquer comment et pourquoi, en fait, ils sont reliés dans l'ombre. Vous croyez naïvement que ces éléments n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Eh bien, si, vous dit la théorie du complot, ces éléments ont à voir les uns avec les autres, et tout à coup, quand vous voyez cette superbe cohérence de l'histoire, vous vous sentez un peu plus intelligent, puis ça vous donne l'occasion de penser que les autres sont un peu plus idiots que vous.
Donc, cette lecture simplifiée du monde, c'est très rassurant.
C'est très rassurant. Et puis notre esprit, on est tous comme ça, hein, y a pas besoin d'être conspirationniste, notre esprit pense par catégorie, nous pensons par simplification, nous cherchons tous à nous enfermer dans une forme de confort mental. Selon que vous soyez de droite ou de gauche, vous allez lire plutôt telle presse ou tel autre type de presse. Mais il est vrai qu'Internet amplifie en réalité cet enfermement, ce qu'on appelle ce biais de confirmation qui nous caractérise tous. Il n'y a pas si longtemps, ces théories du complot existaient, mais elles étaient confinées dans des espaces de radicalité militants. Souvent à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, par exemple, ou dans des espaces de radicalité religieuse. C'est-à-dire que c'était des propositions de réinterprétation du monde. Elles ont aussi cette vertu, d'ailleurs, de redistribuer les cartes, en réalité. Il n'y a rien de plus satisfaisant pour quelqu'un qui a l'impression d'avoir échoué dans sa vie que le fait qu'on lui explique que son échec n'est pas dû à lui, mais dû à des catégories sociales, par exemple les francs-maçons, les juifs, que sais-je. Vous pouvez rajouter n'importe quoi en fonction de l'actualité.
Ce qui est frappant, c'est que celui qui relaie le propos conspirationniste a réponse à tout.
Oui, d'abord parce que celui qui relaie le conspirationnisme est généralement très motivé. C'est un hobby, vous savez, c'est comme quelqu'un qui va collectionner des timbres. Ça va devenir en quelque sorte un érudit de la question des timbres, ou que sais-je. Alors lui, il a beaucoup de temps à consacrer à cela. C'est pas qu'il a réponse à tout, mais c'est qu'il a beaucoup plus de réponses que celui qui ne s'y intéresse pas beaucoup. Hein, qui a entendu parler de deux ou trois contre-arguments. Et malheureusement, ces théories du complot, elles s'adossent aujourd'hui à un très très grand nombre d'arguments. Hein, songez par exemple que pour Charlie Hebdo, j'ai pu mesurer que le premier jour, le jour du 7 janvier, il y avait déjà 26 arguments en faveur de la théorie du complot. Et le 11 janvier, quelques jours après donc les attentats, il y en avait plus de 100. Souvent, les conspirationnistes ont toujours un petit coup d'avance. Et c'est vrai que si on discutait dans un bar, par exemple, avec un conspirationniste et quelqu'un qui n'y croyait pas, avec une troisième personne qui serait neutre, eh bien malheureusement, il y aurait des chances que cette personne neutre soit plutôt convaincue par le conspirationniste, qui aura plus d'argumentation en raison de sa motivation plus grande.
Il y a une génération qui est particulièrement sensible à ces thèses, c'est la génération des collégiens et lycéens qui s'informent principalement via les réseaux sociaux, qui oublient parfois les médias traditionnels ou qui émet beaucoup de réserves par rapport à la véracité de ce qui est donné à la radio ou à la télé. Est-ce que cela en fait une génération plus crédule ?
Il s'est passé quelque chose d'historique depuis la création de la télévision. Pour la première fois, une classe d'âge s'informe par un média différent. Cette classe d'âge sont les plus jeunes et le média dont on parle, c'est bien Internet. Le problème, c'est que non seulement ils s'informent plus sur Internet, mais ils ont tendance à faire confiance plus que les autres catégories d'âge dans les réseaux sociaux. Par exemple, les plus jeunes sont 4 fois plus nombreux, d'un point de vue relatif, à croire que ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux est vrai par rapport à d'autres catégories d'âge. Un autre fait intéressant qui ne concerne pas les classes d'âge les plus jeunes, mais c'est aussi le niveau d'études. C'est-à-dire que, apparemment, plus on a un niveau d'études important, plus on doute de ce qu'il y a dans les médias officiels, comme votre radio, par exemple, ou la télévision. Donc, vous voyez que ces résultats sont extrêmement contrastés et assez complexes à comprendre.
Regarde, là, il y a Fusillade Saint-Denis, les images du début de l'assaut.
Sur Snap, en plus.
Ouais. Ah ouais, donc la première vidéo ?
Non, mais la première.
Vas-y, mets la première.
Ouais, voilà.
2 minutes 21.
Non, mais là, c'était.
Vous avez entendu ou pas?
Mais là, c'était meurtre à la vente.
Moi, j'avais juste entendu à 7h30.
Moi, j'avais trop peur.
Sur Twitter.
Est-ce qu'il y a écrit des attentats simulés 11h20? Ça veut dire quoi, ça?
Non, c'est pas ça. Ça, c'est Charlie Hebdo.
Le 11 septembre.
Le 11 septembre a été organisé par George Washington Bush, c'est ça?
Oui.
L'attentat de Charlie Hebdo a été commandité par les Illuminati et François Hollande. Ça, c'est faux, ça.
Mais essaye de trouver des vidéos du complot.
Mais YouTube.
Oui. Mais YouTube est là.
Ici. Complot de l'État, attentat 13 novembre 2015, Paris. La fusillade. Attentat. Ça, c'est.
Plusieurs quarts de sapeurs-pompiers, plusieurs ambulances. Alors, je sais pas s'il y a des blessés. Vous avez peut-être plus d'infos que moi.
Non, ça, je l'ai vu.
Pourquoi l'homme demande à cette femme et pas une autre personne? Wesh.
Non, c'est du n'importe quoi.
Oui. Vas-y, enlève.
C'est la première fois.
Qui voit?
Bah ouais.
La Ferté-Bernard, près du Mans, lycée Robert Garnier. Rencontre avec Martine Chartier, journaliste. Elle fait partie des volontaires de la liberté d'expression. Les volontaires de la liberté d'expression, c'est un groupe de journalistes rassemblés dès le 10 janvier 2015 à l'initiative de Valérie Rohard.
C'est un établissement labyrinthique, c'est immense. Vous êtes, il y a combien d'élèves ici ?
Ici, il y a 1100 élèves.
Valérie Rohard, grand reporter, a été sensible aux témoignages d'enseignants démunis face à ses élèves qui formulaient des théories complotistes après les attentats de janvier ou bien ceux qui mettaient en balance Dieudonné et Charlie Hebdo. Rencontre entre une journaliste et des lycéens.
Comment on fait pour repérer une vraie info d'une fausse info quand on est lecteur d'un réseau social? C'est pas simple, hein. La question que je te pose, c'est un peu une question piège, mais c'est pas simple.
Bah, en même temps, je regardais la télé, donc je voyais ce qui était vrai, ce qui était faux. C'est vrai que puis il y avait des choses qui étaient un petit peu trop prévisibles ou grossières, quoi.
Enfin, moi, personnellement, j'ai vu une vidéo comme quoi ça aurait été manigancé par le gouvernement, que c'était prévu et tout. Bah, j'y crois pas trop, en fait, parce que moi, je le dis, je suis fier d'être français, j'aime mon pays et j'ose pas imaginer que le gouvernement pourrait faire quelque chose comme ça pour nous manipuler. Je sais qu'il y a une forme de manipulation dans ce qu'on regarde, mais à ce point-là, c'est quand même... Enfin, je sais pas, j'arrive pas à m'imaginer ça, quoi.
Ça vous paraît trop gros pour être vrai, quoi.
Bah ouais, enfin... Donc à partir d'une idée qui va sortir d'un tel, quelqu'un d'autre va dire « Ah ouais, complot, machin, Illuminati, tout ça... » Enfin voilà, quoi.
Moi, en ce qui me concerne, j'aime bien avoir l'information très, très rapidement. Et sur le coup, je me fiche un peu qu'elle soit vraie ou fausse. Je veux juste une information rapidement. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très très bon non plus.
Ouais, alors, c'est fini, ils ont cours après. Donc,
ah oui, oui. Vous avez cours de quoi?
SES.
Donc, je m'appelle Norma, j'ai 15 ans et je suis en classe de seconde.
Norma, est-ce que tu as déjà entendu parler de la théorie du complot?
Oui, j'ai entendu certaines choses, par exemple le fait que, enfin je sais pas trop, en fait c'était très confus, mais que les États-Unis étaient pour quelque chose. C'est ce qui se répète de bouche à oreille encore une fois, mais enfin oui, j'ai entendu certaines choses, mais vraiment très confuses, donc je pourrais pas trop donner mon mot là-dessus.
Et quand tu entends ce type d'information, tu leur donnes du crédit, tu y crois ou pas?
Bah écoutez, je pense pas qu'un pays peut être responsable de tout ce qui se passe. Et que oui, bah, je pense que pourquoi les autres pays n'y seraient pas pour quelque chose. Après, je connais pas tout ce qui se passe partout, mais je me dis que oui, ce serait probable.
Et est-ce que tu trouves que tu es assez armée intellectuellement pour te faire une opinion et pour distinguer une information d'une rumeur ou d'une fausse information?
Tout dépend de la situation ou de ce qui est dit, mais je pense que oui. Il y a certaines choses que je pourrais être capable d'évaluer du véridique comme de fausse.
Et comment tu fais?
Je sais pas, je me fonde avec mon propre avis personnel sur la question et je me dis ce qui peut être probant ou pas. Et après j'évalue si oui ou non ça pourrait être véridique ou faux.
Je m'appelle Zoé, j'ai 14 ans et je suis en seconde.
Zoé, est-ce que tu as entendu parler de la théorie du complot?
Une fois ou deux, mais... Je suis pas vraiment rentrée dans les détails. Parce que je trouve pas ça très réaliste, personnellement.
Est-ce que tu penses que tu vis dans une société où on nous cache des choses?
Ah oui, certainement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Mais je pense aussi qu'il faut pas se... Il y a beaucoup de films qui nous influencent et du coup, faut pas trop non plus se croire dans un film. Je pense qu'on nous cache beaucoup de choses, mais il faut pas non plus trop prendre... tout ça au sérieux.
Mais qu'est-ce qui te permet de dire qu'on nous cache des choses?
Je sais pas trop, je pense que c'est la société qui fait ça, ou tous les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de choses qui circulent, mais je pense que ça circule aussi sur pas mal d'autres modes d'information.
Et tu t'informes comment?
Moi, principalement la télé et les réseaux sociaux.
Voilà donc que les premières infos fusées que des témoins ont nettement entendu à la Akbar. Ben voyons. C'est tellement facile, tellement évident qu'il ne peut en être autrement. On sait très bien que le peuple suprématiste d'Israël a besoin d'éradiquer les religions pour imposer la sienne. Le catholicisme a été perverti par le protestantisme et a joué...
Je m'appelle Hélène Scholl, je suis professeure d'histoire, de géographie et d'EMC, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire éducation morale et civique.
Est-ce que vos élèves parviennent à hiérarchiser les sources ?
Non, c'est difficile pour eux, surtout en seconde. Je pense qu'ils n'ont pas la maturité nécessaire pour pouvoir distinguer une information fiable d'une autre qui ne l'est pas. Ils hiérarchisent pas l'information, notamment sur Internet. Ils savent pas distinguer, par exemple, un site qui est fiable d'un qui ne l'est pas. Ils n'ont pas toujours la question des sources, en fait, en tête. Et on fait beaucoup de, dès la seconde, on fait quand même beaucoup de séances qui sont consacrées à la recherche documentaire, notamment sur Internet, mais aussi au CDI. Et on s'aperçoit qu'ils ont énormément de mal à faire ça. Mais c'est aussi une crise de confiance, justement, entre les élèves et les autorités traditionnelles, que peuvent être les parents, la figure du professeur, les autorités politiques, je pense. Donc avec cette tendance à se méfier de la parole officielle qui est véhiculée par les autorités traditionnelles et donc de fait de se tourner vers des paroles officieuses qui exercent une certaine séduction.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait nécessaire de rendre obligatoire l'éducation aux médias ?
On est déjà dans cette démarche-là. Donc même s'il n'y a pas une obligation dans les textes officiels, moi je sais qu'en tant que prof d'histoire géo et d'éducation civique, je suis déjà dans cette démarche-là depuis plusieurs années. Donc notamment, je vous dis, par rapport à la recherche documentaire, au travail sur les images, je disais justement tout à l'heure que j'avais animé avec eux un atelier sur la photographie de presse qui avait très très bien marché. Dans le cadre justement de la réforme qui touche l'éducation civique qui est intervenue cette année, en fait dans la foulée des attentats de janvier déjà, cette question de l'analyse du traitement médiatique de l'actualité, elle est déjà inscrite dans le programme pour les élèves de première par exemple. Donc on y vient vraiment.
Je m'appelle Martine Chartier, je suis journaliste de presse écrite depuis Lurette, depuis 1981 ou 80.
Pourquoi vous êtes-vous engagée avec les volontaires de la liberté d'expression ?
Écoutez, l'initiative donc, qui remonte à janvier de cette année vient du fait qu'on a tous été choqués par ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, par le fait qu'il y avait une méconnaissance et de Charlie même et des dessinateurs, enfin des collaborateurs de Charlie Hebdo, qu'il y avait un tas de rumeurs qui couraient à leur sujet, que les caricatures n'étaient pas comprises, étaient interprétées, que les jeunes avaient été un peu farcis d'idées absolument incongrues. Et quand notre consoeur Valérie Roar a lancé l'idée sur Facebook, on a été plusieurs à répondre présent parce que parler de la liberté d'expression dans la presse, il n'y a rien de mieux qu'un journaliste pour le faire, je pense. Et puis c'est aussi à un moment donné à nous engager pour le faire.
Pour un journaliste, intervenir face à des élèves, ce n'est pas un exercice habituel. Comment vous les trouvez, les élèves en général ?
Moi, je les trouve plutôt bien. Il y a des plus et des moins. J'ai eu des interventions au lycée professionnel qui étaient un peu plus dures. Parce que très fort dans la provoque, c'était après Charlie Hebdo. Donc la caricature, là aussi, elle n'était pas comprise. Et on leur avait dit un certain nombre de choses sur les dessinateurs, sur ce qu'ils entendaient par faire le dessin du prophète, etc., etc. Bon, finalement, ça se passe bien, quoi. Je ne les contredis pas. Je ne veux pas apporter une contradiction. Je veux simplement apporter le fait qu'il y a qu'est-ce que l'information, comment elle se constitue, qui est-ce qui est responsable de cette information, comment elle est validée, vérifiée, etc. Et que précisément un journaliste est là pour ça. Et ça fait la différence entre la presse et le travail du journaliste et puis tout ce qui se balade sur les réseaux sociaux.
Nous sommes à Rennes, direction l'université de Villejean.
Station et parc de la Villejean Université. Accès Université Rennes 2.
Premier rendez-vous avec Ronan Chérel, professeur d'histoire contemporaine à l'université. Il enseigne également en collège et donne des cours à la prison de Rennes.
Bonjour à vous.
Avec ses collégiens, il a créé la revue Mediaparks suite aux attentats de janvier 2015. Objectif, les former à l'analyse critique des médias et les initier au journalisme.
Bienvenue à vous pour ce dernier cours. On va partir de vos questions parce que comme l'objectif est également de vous préparer pour vos partiels de janvier, je ne voudrais pas que ce soit un cours magistral. Hein. On va reprendre au début, sauf qu'on va s'appuyer sur vos connaissances pour construire ensemble la synthèse qu'on va faire durant ces 3 heures de cours et les 2 heures qu'il y aura après. Eh bien, ce sera votre évaluation terminale. Et c'est parti. Mais tout se passera bien, j'ai confiance en vous.
Je me suis retrouvé dans une situation délicate, arrivant une semaine pile après les attentats de Charlie Hebdo à la prison. J'y avais cours le lundi matin. Et justement, j'aurais dit, bon voilà, est-ce que vous voulez qu'on parle des attentats de Charlie Hebdo? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Et puis, avec une certaine nonchalance, le groupe, de manière assez collective, m'a dit, ben non merci, c'est très gentil, monsieur Chérel. On n'a pas vraiment besoin d'en parler parce qu'on sait déjà tout ce qui se passe. Alors j'étais un petit peu interloqué, je les ai écoutés, je leur ai dit, ben très bien, expliquez-moi. Ils m'ont dit, bon allez Ronan, tu vas pas faire l'imbécile. Tu sais très bien que tout ça, c'est ni plus ni moins qu'une preuve supplémentaire du complot judéo-maçonnique. Et là je suis un peu tombé des nues. J'ai plus rien compris en une seconde, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je connaissais cette histoire de complot judéo-maçonnique, mais jusqu'ici je le prenais à la rigolade, puisque moi j'en étais protégé, j'étais immunisé contre ça. Et je me suis rendu compte en un fragment de seconde que c'est pas parce que moi j'étais capable de me protéger et que j'avais les outils intellectuels pour le faire que pour autant tout le monde était à l'abri de ça, et que ce que je prenais à la légère jusqu'ici existait vraiment dans la société, de manière reconnue ou non, et que à partir de là, il fallait surtout pas que je tombe dans le piège de ce que j'envisageais jusqu'ici, c'est-à-dire marquer une distance entre la globalité de la société française, par exemple, et puis une minorité de gens qui croient à des affabulations en se disant « bah oui, tiens ». Non, non, je me suis rendu compte que ces théories-là existaient et qu'elles avaient un vrai impact dans la société.
Alors, ces théories, auprès de vos publics, aussi différents soient-ils, se traduisent comment? Avec quel type de propos?
Avec des convictions, avec des certitudes, là où l'histoire m'a enseigné le doute sceptique. C'est-à-dire que face à l'explication d'un, ce qu'on appelle un fait historique, nous pourrons émettre des suppositions parce que, en tant qu'historien, nous avons une éthique historienne. Face à un fait donné, on le décortique, on vérifie un petit peu tout ce qui se passe, on émet des hypothèses, on apporte des preuves, quand on peut en apporter, mais ce qu'on ne peut pas prouver, on ne le certifie pas. On dit voilà... Là, de ça, on n'est pas tout à fait sûr. Selon les points de vue, ça pourrait être telle piste ou telle piste qui expliquerait ce phénomène-là. Avec le phénomène complotiste, et c'est la façon dont les publics dont vous parlez ont pu réagir, et en premier lieu les détenus de la prison de Rennes, on était avec des certitudes absolues et une somme de preuves qui ne sont pas des preuves. À leur titre, quand ils me disaient que tous les attentats étaient liés au complot judéo-maçonnique, ils considéraient un certain nombre d'indices comme des preuves, des éléments sur lesquels, certes, on pouvait s'interroger. Je trouve tout à fait légitime de s'interroger sur la couleur d'un rétroviseur, la présence d'une carte d'identité, une action ou une autre. C'est intéressant de s'interroger sur les choses, mais c'est sur le fait que l'on donne d'office... le statut de preuve à une réponse qui n'est pas une preuve, qui est une question. Voilà. Ça, ça a été une chose. Donc, je me suis confronté donc à cette théorie du complot. Je me suis dit qu'il y avait un travail à faire avec mes détenus. Bon, très bien. J'ai acté le fait que, avec mon bagage universitaire, historien, etc., ben, je m'étais fait ramasser par des gens qui reconnaissaient ne pas connaître parfaitement toute l'histoire, mais disaient que, de toute façon, il y avait vraiment un lien entre tout ça.
Les propos que vous avez entendus au sein de la prison, est-ce que ils ont été également les mêmes lorsque vous êtes ensuite rendu au collège ou à l'université?
C'est exactement ce qui s'est passé quand je suis arrivé en classe, donc dans l'établissement du secondaire, l'après-midi. Je relance un petit peu le débat, je leur dis « mais sinon ça va, qu'est-ce que vous avez comme autre chose à dire sur ce qui s'est passé ?» Je tâte un petit peu le terrain, je faisais mon petit diagnostic pour savoir ce qu'il en était auprès des élèves. Et d'office, pouf, c'est sorti. Des élèves ont commencé à dire « oui, mais de toute façon, tout ça, c'est la théorie du complot, on sait bien qu'il y a ceci, cela, etc. » Et c'est le complot judéo-maçonnique. Et en fait, en un fragment de seconde, j'ai retrouvé exactement les mêmes arguments, presque sur le même ton que le matin. Comme s'il y avait une espèce de communauté de pensée, comme si les gens qui suivaient la théorie du complot étaient connectés entre eux et étaient capables de sortir exactement les mêmes phrases de la même manière, quel que soit l'endroit ou le moment ou la personne. Donc, je me suis dit que là, avec cette sensation de déjà-vu avec ce qui s'était passé le matin, on n'était plus face à quelque chose d'extrêmement localisé, on avait un phénomène pandémique.
qu'est-ce qu'une source ? Une source, pour un journaliste comme pour notre copain, c'est quelqu'un de bien informé sur un sujet et qui donne des détails. Un avocat qui dévoile le contenu d'un dossier de justice, un pompier qui explique les causes d'un incendie, un chef d'entreprise qui parle du nouveau portable révolutionnaire qu'il va sortir. Sans source, un journaliste a beaucoup moins d'informations. Il ne peut pas tout voir ou tout deviner seul. Allons,
Léonore. Je m'appelle Sissi. Et je viens de Rennes, du Blon. Et j'ai 18 ans et je suis en fac d'histoire.
Comment vous vous informez ?
J'écoute les médias, mais je ne m'arrête pas à ça. Je cherche à côté, par exemple, sur des articles qu'on ne diffuse pas forcément à la presse, sur Internet. Mais je ne m'arrête pas non plus à ça. J'essaie d'aller voir toute seule. Je demande auprès des associations.
Quel type d'association ?
Moi, je côtoie plutôt des associations musulmanes, mais je ne m'arrête pas à ça. On essaie de comprendre pourquoi les musulmans sont arrivés à là, en fait. Non, c'est juste si on écoute les médias, on se déteste nous-mêmes. En tant que musulmans, on se déteste, voilà. C'est juste ça. Et l'image qu'on donne de nous, c'est pas du tout celle-là. Donc du coup, on essaie de se réconforter entre nous, à se dire qu'il faut pas rentrer dans le jeu-là et qu'il faut surtout pas faire comme eux. Surtout pas détester les Français, détester l'État français. Et que tout ça, c'est pas un acte musulman, c'est pas un acte demandé par Dieu, et c'est tout le contraire d'un musulman.
Donc ce qui, toi, te mobilise, et ce pourquoi tu voulais nous parler, c'est par rapport aux attentats.
Oui.
Qu'est-ce que tu as ressenti lors des attentats ?
Je m'y attendais, et je sais qu'il y en aura d'autres. Enfin, j'ai pas essayé de comprendre ce qui se passait sur moi, j'attendais juste ce qu'ils allaient dire après, en fait. Ce qui a dégradé encore plus l'image des musulmans avec ces informations, dont je n'y crois pas du tout, par rapport à la kamikaze, où j'ai du mal à y croire.
Pourquoi tu dis « j'étais sûre que ça allait arriver » ?
Parce que, en fait, ce qui se passe, il ne faut pas s'arrêter à juste ce que diffusent en direct les médias. Tout ça, ça s'est passé parce que, pour moi, justement, il y a un complot. Et... C'est pas le premier complot, c'est pas le dernier. Pour moi, on essaie de détruire la religion musulmane.
Mais ce complot, il viendrait d'où ?
Des États forts. Des États forts, des États comme les États-Unis, comme la Russie, comme les Émirats Arabes Unis. Ceux qui financent Daesh et ceux qui veulent après les détruire. Mais c'est grâce à eux s'ils sont arrivés là, en fait, au final, Daesh. Daesh, ils ne sont pas construits tout seuls. C'est pas venu, c'est pas des jeunes... Non, ces jeunes-là, ils sont sortis de prison à la base avant d'aller là-bas. C'est un lavage de cerveau qu'on leur a fait. Ils sont pas montés comme ça tout seuls en puissance. C'est, pour moi, les financements des États-Unis par rapport aux armes, par rapport au pétrole avec la Russie, même les Émirats Arabes Unis au final.
Mais toutes ces informations, tu les trouves où ?
Moi, j'ai un frère qui à la fac a fait un master en sociaux. Lui, en fait, c'est lui qui m'aide à comprendre un peu la vie au final. Il est très intelligent et je lui fais confiance. Ensemble, on regarde sur Internet tout ce qu'ils disent, même les journaux, tout ce qui peut nous instruire au final, nous donner des informations, on lit et on essaie de faire une propre déduction au final, ne pas croire que seulement ce qu'ils disent, mais la logique des choses. Et quand j'ai besoin, je lui demande et il m'aide ou je regarde avec lui sur Internet, comme je vous ai dit.
Alors, quand tu dis que tu regardes sur Internet, tu regardes des sites, tu regardes des comptes Twitter, elles viennent
d'où ? Non, je regarde vraiment des... Je sais pas, mais c'est des articles au final qui sont écrits, mais avec des preuves au final. Et quand on essaye de comprendre l'histoire, au final, c'est logique. Les médias, par exemple, ils n'ont jamais dit que Daesh, tout ça, était financé par les États-Unis ou par la Russie ou par quoi que ce soit, que c'était grâce à eux. Que Daesh a réussi à faire tout ça. Pourquoi ils feraient tout ça à la France, aux États-Unis ? Pourquoi ils feraient ça ? Si c'est eux qui les financent, qui donnent des armes, pourquoi ils iraient les attaquer après ? Ils vont leur donner des armes et après ils vont aller les tuer. Pourquoi ? Moi, c'est ça que je comprends pas. J'essaie de confirmer mes doutes avec ce qu'ils disent sur Internet et j'ai trouvé des sources. Et puis, je peux pas vous les citer parce que je les connais pas, mais des sources qui me prouve que c'est vrai, quoi.
Donc tu doutes totalement des médias traditionnels ?
Oui, parce que les médias, pour moi, c'est... Ils prennent ce qu'ils ont sous la main, en fait.
et ils en font ce qu'ils veulent, à leur sauce.
Tu ne penses pas que finalement pour toi c'est plus simple de croire aux théories du complot parce que la vérité en tant que musulmane elle est beaucoup trop violente ?
C'est ça pour moi, c'est exactement ça. Je préfère croire aux théories du complot parce que même d'un côté ça a un sens plus logique, mais aussi j'avoue parce qu'il y a une grande part parce que je suis musulmane et j'ai pas envie de croire que ces gens-là tuent vraiment au nom de Dieu. Et voilà.
Croire aux théories du complot, c'est rassurant ?
Bien sûr. Bien sûr, parce qu'au final, on se dit que les gens, ils se trompent. Que les gens, ils écoutent les mauvaises personnes et qu'ils connaissent pas vraiment la vérité. Mais nous aussi, on connaît pas la vérité et voilà. On peut pas savoir.
Les ados à l'heure du complot, c'était un reportage d'Emmanuel Davier. Clémence Bonfils et Fabien Gosset ont assuré la prise de son sur le terrain. Pour compléter ce reportage, Emmanuel Davier s'est entretenu avec Rudi Reichstadt. Il est le fondateur du site Conspiracy Watch. C'est un site qui précise...
Ça tombe pas du ciel, et le plus souvent derrière il y a des gens qui agissent ces théories du complot, c'est-à-dire qu'ils les fabriquent, qu'ils les mettent en circulation sur le marché de l'information. Et c'était intéressant de montrer au public qu'il y avait des entrepreneurs de politisation conspirationnistes qui ont un intérêt à ça, qui à mon avis font un travail qui est de l'ordre de la désinformation et du charlatanisme, et que ces gens ont un agenda idéologique, politique, qui sont même parfois payés ou ont des liens très très forts avec des puissances étrangères, je pense à la Russie, à l'Iran en particulier pour l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, que tous ces gens-là travaillent en réseau, se citent mutuellement et ont des effets inévitables sur la manière dont on se représente les choses.
Le 7 janvier 2015, moins d'une heure après la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo, apparaissait la première thèse complotiste. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce fil des événements du côté donc de la théorie du complot ?
S'agissant de Charlie Hebdo, effectivement, on a des explications conspirationnistes qui sont apparues quasiment instantanément sur le web, de la part d'anonymes, c'est-à-dire de gens qui commentaient sur des sites conspirationnistes et qui immédiatement y ont vu la main de services secrets étrangers, du Mossad en l'occurrence, qui ont expliqué que tout cela profitait à Israël. Et puis, parmi les désinformateurs professionnels, on a quelqu'un comme Thierry Messant qui, le soir même des attentats de Charlie Hebdo, dès le 7 janvier, publie un long article expliquant que ça ne peut pas être un attentat djihadiste et qu'il faut sans doute chercher les responsabilités du côté de Washington et Tel Aviv.
Ce qui est tout à fait inédit après les attentats de janvier, c'est que le chef de l'État, la ministre de l'Éducation, la ministre de la Culture ont envisagé le conspirationnisme comme un problème public, alors qu'auparavant, les théories du complot semblaient laisser la classe politique plutôt indifférente et parfois aussi la classe médiatique qui s'en empare davantage maintenant. Est-ce que c'est l'amorce d'une prise de conscience ?
Oui, une prise de conscience, un tournant en janvier 2015, c'est indéniable. Parce que de toute façon, le complotisme interroge la crise de la démocratie. Lorsque on martèle matin, midi et soir sur ces sites complotistes que notre élite, en général, qu'ils soient médiatiques, politiques ou même scientifiques, ce qui représente l'autorité, lorsqu'on martèle tous les jours qu'elle est corrompue, qu'il s'agit de marionnettes, à la solde de puissance de l'ombre, eh bien on en arrive nécessairement à remettre en cause la validité du système qui permet ça, qui rend possible ça, et donc de la démocratie. C'est pour ça aussi qu'il y a un lien très fort, une corrélation entre complotisme et extrémisme politique, et radicalité politique. Évidemment, les théories du complot, elles sont aussi, ce sont toujours des discours d'accusation, et donc elles permettent aussi de stigmatiser des populations, elles permettent de trouver des boucs émissaires, et on sait historiquement qu'elles ont eu une part importante dans la fabrication d'un ennemi de l'intérieur, d'une cinquième colonne. C'est l'histoire de l'extermination des Juifs d'Europe, c'est aussi l'histoire de l'extermination des Tutsis au Rwanda, on le sait peu, mais avant le génocide de 94, on a eu des années et des années de préparation idéologique des Rwandais, avec l'idée qu'on avait là affaire à un ennemi de l'intérieur, qui manipulait, qui était considéré comme des comploteurs, les Tutsis. Il y a une affinité élective entre le crime et le discours complotiste. Et puis, je crois que le complotisme fait ressortir aussi un phénomène de sécession dans la société. C'est-à-dire que lorsque vous avez une partie de la société française qui ne croit pas ce qui s'est passé, par exemple en janvier ou le 13 novembre, qui pense que on lui ment, qui pense que tout ça, c'est pour nuire à l'image de l'islam, nuire aux musulmans, déclencher une guerre de civilisation, etc. Il n'y a plus de débat public possible. Si la démocratie, c'est d'organiser la libre confrontation des opinions, là, on parle même plus d'opinions qui se confrontent, on parle de visions de la réalité qui sont même plus les mêmes. Donc le débat ne peut se réduire qu'à une caricature de débat. Et l'idée qui revient toujours est la même dans la rhétorique complotiste, c'est à qui profite le crime. Et évidemment, ça ne profite pas aux terroristes, ça profite à d'autres puissances cachées, puissances de l'ombre, des puissances qui agissent dans les coulisses.
Pourquoi de manière récurrente, systématique, les théories du complot impliquent l'État hébreu, le Mossad ou le lobby sioniste ?
Tout le temps cette source, parce que je crois qu'on a affaire à des gens très motivés qui ne font que recycler un vieux matériel antisémite qui est disponible parce qu'il a été forgé et reforgé depuis un siècle et demi. C'est-à-dire que la théorie du complot juif, puis du complot judéo-maçonnique, puis du complot judéo-bolchévique, puis du complot judéo-ploutocratique, ça n'est qu'une même variation sur un vieux thème antisémite. Aujourd'hui, il prend la forme du complot sioniste parce que les complotistes essaient d'être polis. Mais en réalité, on retombe toujours sur ces représentations-là, qui sont très très marquées idéologiquement et qui émanent d'une extrême droite qui n'a pas vraiment varié dans ses thèmes de prédilection.
Interception a été réalisée cette semaine par Sylvain Richard, assisté de Stéphane Combe et Zora Ben-Smaili, mixage Claude Niort. Et pour être absolument précise sur les rendez-vous à l'antenne d'Interclasse, en plus des samedis soirs entre 20 et 21h, les reportages de ces adolescents en version plus courte vous sont proposés dans les matinales de vendredi à dimanche. Dans un instant, c'est le journal de 10h sur France Inter. Bon dimanche et bel été.